Radio Prague, les informations.
Le Parlement européen a appuyé la suppression des visas canadiens pour les ressortissants tchèques. Václav Havel a été hospitalisé pour une inflammation des voies respiratoires. Et Václav Klaus critique le gouvernement sur la question de la TVA et des retraites. Le Parlement européen a appuyé la revendication de la République tchèque de supprimer l'obligation de visa canadien pour les ressortissants tchèques. Une pétition dans ce sens a été signée par la majorité des députés du Parlement et adressée à la Commission européenne. C'est l'eurodéputée Zuzana Rojtová du parti chrétien-démocrate qui est l'initiatrice de cette pétition. Le Canada avait introduit l'obligation de visa pour les ressortissants tchèques face à l'afflux de migrants roms. Le taux de chômage est légèrement baissé en février pour passer à 9,6% d'après les derniers chiffres publiés par le ministère du Travail et des Affaires sociales ce mardi. Le nombre de nouveaux emplois a augmenté de 2,5% et les bureaux du travail ont enregistré quelque 5000 demandeurs d'emploi en moins qu'en janvier, avec 20% de demandeurs d'emploi à la région des Yessenies comme Moravie du Nord, affiche le taux de chômage le plus important du pays, suivi par la région de Most avec 16%. La capitale tchèque affiche le taux de chômage le plus faible avec 4,1%. L'ancien président Václav Havel, qui souffre d'une affection des voies respiratoires, il a été admis à l'hôpital militaire de Prague ce mardi. Après avoir été d'abord soigné à domicile, la maladie l'a obligé à supprimer, à annuler son programme dans les prochains jours. Selon l'assistant de Václav Havel, l'ancien président espère être guéri avant le 25 mars prochain, date de la première du film que Václav Havel a réalisé d'après sa pièce de théâtre intitulée « Sur le départ ». D'après l'actuel président, cette fois-ci, Václav Klaus, le gouvernement tchèque ne devrait pas lier l'augmentation de la TVA à la réforme du système des retraites. S'exprimant lundi sur la chaîne de télévision privée Nova, le chef de l'État a dit ne pas comprendre pourquoi les deux questions avaient été mélangées. Il aurait préféré les voir dissociées. Le gouvernement a confirmé son accord sur la réforme des retraites la semaine dernière, basant celle-ci sur le passage à un taux de TVA unique à 20% à partir du mois d'octobre pour financer le déficit des retraites. Jusqu'alors, le président tchèque avait soutenu le cabinet Nečas sur la plupart des sujets. La réforme des retraites est la première loi qu'il critique. Une cour supérieure de l'homme haute a rendu ce mardi un verdict plus sévère contre l'auteur d'une attaque au cocktail Molotov contre une maison habitée par des Roms à Ostrava en mars dernier. Le jeune homme a été condamné à 4 ans de prison ferme, soit un verdict beaucoup plus sévère que le premier verdict de 3 ans avec sursis. Sa mère, qui connaissait les intentions de son fils, a été condamnée à 7 ans et demi de prison. Aucun des habitants de la maison n'avait été blessé lors de l'attaque, mais le tribunal de l'homme haute a estimé que celle-ci avait été menée avec l'intention de tuer et a noté que le 13e festival international One World commence en République tchèque. Dans son cadre, le public pourra voir 104 films sur la problématique des droits de l'homme issus d'une quarantaine de pays. Plus de détails dans quelques instants dans les faits et événements. On finit avec un mot de météo. Mercredi, jour de fête des Františka, Françoise en français. Le ciel en Tchéquie sera toujours clair et les températures diurnes s'échelonneront de 8 à 12 degrés en Bohême et de 4 à 8 degrés en Moravie. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme présent présenté par Guillaume Erguet.
Faits et événements en République tchèque. Dobriden, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Anna pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous à l'écoute de l'actualité sur Radio Prague. Au sommaire de cette actualité figure tout d'abord la Libye. L'élite politique tchèque est en effet divisée sur l'opportunité d'une intervention occidentale. La 13e édition du festival Jeden Svet One World ouvre ses portes ce mardi. Un festival sur les droits de l'homme organisé par la plus importante organisation non gouvernementale tchèque, comme nous l'entendrons dans quelques instants. Et puis la seconde partie de cette émission sera consacrée à un long reportage sur le jazz à Prague. La réputation de la capitale tchèque en la matière est-elle justifiée? La réponse dans la rubrique du jour. Mais en attendant de développer tous ces titres, nous vous souhaitons une très bonne écoute à toutes et à tous. L'ancien président Václav Havel a appelé à une opération militaire des pays occidentaux en Libye en cas de poursuite de la guerre civile. Dans une interview publiée dans l'édition de lundi du quotidien économique Osporaske Noveni. De son côté, le président en fonction, Václav Klaus, a exprimé son ferme désaccord, tandis que le gouvernement adopte une position prudente sur la question et refuse pour l'instant toute intervention armée. Plus d'explications avec Ali Moudine Ousmani.
En particulier, si la guerre civile se prolonge, si Kadhafi s'accroche au pouvoir et commet de nouveaux crimes, une opération sera nécessaire, a déclaré Václav Havel. Une telle opération peut avoir différentes formes. Aide aux insurgés, blocus de l'espace aérien ou attaque ciblée contre les endroits où Kadhafi se cache, a expliqué l'ancien président de 74 ans. Citant l'exemple des frappes de l'OTAN en Serbie en 1999, Václav Havel a estimé que certaines choses ne pouvaient être ajournées trop longtemps et que l'Occident devrait agir vite en regardant vers l'avenir avec intelligence. Le président Václav Klaus a immédiatement réagi à ces propos en se distançant clairement des propos de son prédécesseur.
Je suis en désaccord avec l'ancien président sur bien des choses. J'étais opposé à lui d'une manière virulente lorsqu'il souhaitait bombarder Belgrade. Et dans le cas présent, je suis une fois de plus en désaccord avec lui.
Comme le rappelle Václav Klaus, ce n'est pas la première fois que les deux personnalités ont un avis opposé, en particulier lorsqu'il s'agit d'une intervention armée. Václav Havel avait soutenu l'intervention américaine en Irak en 2003. Estimant alors que le régime irakien et ses armes de destruction massive constituaient une menace pour le monde. Le président Klaus pensait, lui, que la démocratie ne peut s'imposer de manière coercitive et qu'il était par conséquent contre l'intervention en Irak. Nous avons donc affaire à deux conceptions du monde radicalement opposées. L'ancien président semble attaché au concept du droit d'ingérence, tandis que l'actuel pense que les interventions étrangères sont nuisibles et que les peuples doivent se libérer par eux-mêmes. Par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, Karel Schwarzenberg, le gouvernement tchèque a accordé, ce mardi, un entretien au quotidien Lidové Noviny. Le chef de la diplomatie se prononce à l'heure actuelle contre une intervention. Il pense que c'est une affaire libyenne. Karel Schwarzenberg pense également qu'une intervention prématurée d'une armée étrangère ne ferait qu'aggraver les choses. Lundi, à la télévision tchèque, il a affirmé que Václav Havel ne disposait pas de toutes les dernières informations. Fin février déjà, le ministre des Affaires étrangères avait exprimé ses doutes sur la nature de l'opposition à Kadhafi.
Nous ne savons pas qui sera au pouvoir en Libye. Nous n'avons pas la moindre idée si un nouveau pouvoir se mettra en place. Il y a, paraît-il, une nouvelle autorité à Benghazi, mais nous ne savons pas qui ils sont.
Les derniers événements donnent plutôt raison à Karel Schwarzenberg. L'issue des combats est toujours incertaine, et même si les dernières informations font état d'un possible départ négocié de Kadhafi, la situation reste floue et n'aide pas les pays occidentaux dans leur prise de décision.
Ce mardi commence la 13e édition du Festival du film documentaire sur les droits de l'homme, un festival intitulé Jeden Svět, One World, Un Monde. Un festival organisé par l'organisation non gouvernementale Člověk v tísni, People in Need, Anna Kubišla.
Au cours des 13 années de son existence, le festival One World s'est développé de telle façon qu'il est devenu un des rendez-vous incontournables de l'année. Outre l'évidente valeur ajoutée du patronage de l'ancien président Václav Havel, chaque année, le festival s'attache à développer plusieurs thèmes transversaux, comme le rappelle la directrice du festival, Hanna Kulhankova.
La corruption est le thème principal cette année. Nous avons une section avec 7 films qui viennent d'Ukraine, de Russie, d'Italie, mais aussi de République tchèque. Cette section a pour but de montrer aussi ce qui se passe ici, de dénoncer le fait qu'on ne fait rien pour lutter contre, alors qu'il est clair que nombre de politiciens ont des liens avec des entreprises et qu'il existe des contrats peu clairs. Nous voulons lancer le débat.
Une nouvelle tendance semble caractériser les productions documentaires de cette édition. Plusieurs films, de quelque pays qu'ils soient, intègrent des passages animés aux images documentaires réelles. Une idée proche de ce qu'a fait en son temps Harry Folman avec Valse avec Bachir. Hanna Kulhankova.
Justement, quand on a sélectionné les films, on s'est dit que dans presque tous ceux qui parlaient de corruption, il y avait des séquences animées, comme si c'était devenu un moyen simple et intéressant de filmer ce qui autrement ne peut être filmé. Donc c'est vrai, l'animation est très présente cette année au festival.
Parmi les films présentés dans le cadre de la compétition principale, un documentaire de la réalisatrice belge Marie Mandy intitulé « Mes deux seins, journal d'une guérison ». Marie Mandy est documentariste et lorsqu'elle apprend en 2007 qu'elle est atteinte d'un cancer du sein, elle décide de combattre la maladie en exerçant son métier. Au premier abord, il peut être surprenant que ce film ait été sélectionné dans le cadre d'un festival sur les droits de l'homme, mais pas pour Hanna Kulhankova.
Ce film est très personnel. Tout part de l'annonce du cancer et de sa quête pour trouver des moyens de se soigner. Et s'efforce de trouver des moyens alternatifs également. On suit littéralement jour après jour ce qu'elle ressent. On y voit des conflits qu'elle peut avoir avec des médecins parce qu'elle cherche à se soigner de façon à ce que son corps soit le moins possible touché. Et on voit bien comme certains médecins n'entendent pas du tout ce langage, que les questions d'éthique, de relations avec le patient ne les intéressent pas. Pour moi, il était donc évident de sélectionner ce film qui aborde ces problèmes.
Et puis comme tous les ans, le festival One World se déplace en région, après la section pragoise et même au-delà des frontières du pays, en Belgique. Hanna Kulhankova.
À partir du 16 mai, le festival se déplace à Bruxelles et présente une sélection des meilleurs films qui ont été projetés à Prague. Pourquoi à Bruxelles? Parce qu'à Bruxelles travaillent beaucoup de gens influents qui, par leur travail et leur fonction, ont la possibilité de faire bouger les choses au niveau législatif, par exemple. En outre, c'est l'occasion pour l'ONG People in Need de rencontrer des partenaires et puis aussi de présenter à Bruxelles les réalisateurs et même les héros des films en question.
Na festival jak filmaře, tak vlastně hrdiny z těch dokumentů, aby se sešli z politiky.
Voilà, et tous les détails du programme du festival One World, c'est à l'adresse suivante www.jedensviet.cz.
Voilà, c'est la fin de ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie. Notre émission se poursuit avec ce mardi la rubrique Panorama. Cette fois, la question qui a intéressé Anne-Claire Veluire est de savoir si Prague est bien une ville de jazz. C'est en effet ce qui peut se lire dans la plupart des guides touristiques sur la capitale tchèque, qui vantent le dynamisme des scènes locales et le talent de ses musiciens. Cette réputation est-elle pour autant justifiée? C'est l'enquête qu'a menée Anne-Claire Veluire.
Panorama.
Panorama.
Bienvenue au Jazz Doc, un nouveau club de jazz récemment émergé des eaux de la Vltava, puisqu'il a été construit il y a tout juste 2 ans sur une plateforme posée sur la rivière, au pied du pont Jiráček, du côté du quartier de Smíchov. La vue sur le Théâtre National et sur le centre-ville en général y est imprenable, et comme vous pouvez l'entendre, l'ambiance est plutôt bonne. En attendant le premier des 2 concerts de la soirée, les premiers spectateurs se détendent en sirotant quelques cocktails sur fond de musique jazz. Ce soir, c'est un duo franco-russe, Rulaskar, basé à Berlin, qui se présente pour la première fois sur une scène pragoise. Pour autant, Matt Dehart, chanteur et guitariste du groupe, n'est pas tout à fait en terre inconnue à Prague. Il explique comment il s'est retrouvé invité sur la scène du Jazz Doc.
En fait, ce qui se passe, c'est que bon, déjà d'une part, Berlin, c'est pas très loin, hein, c'est 4 heures de train, 4 heures et demie, quoi. On a aussi une connexion, nous, parce que bon, moi, j'habitais à Prague entre 92 et 95, et j'ai encore quelques vieux amis qui sont encore ici, qui sont de cette époque-là, qui étaient aussi eux des musiciens de rue. Donc ça a été un petit peu le début de moi, de ma carrière musicale, on va dire. Et on a gardé les liens de loin en loin, donc on vient les voir, et puis on essaye aussi de mettre un peu le pied dans la scène tchèque aussi, puisqu'il y a une très bonne scène musicale ici. Bon, au niveau du niveau musical, c'est assez fort, donc on aime bien se faire entendre aussi dans le quartier, quoi.
D'accord, alors c'était justement là où je voulais en venir. Prague, quand on lit les guides touristiques, est considérée comme une ville de jazz. Est-ce que c'est vraiment votre impression aussi?
Bah, il y a une tradition, hein. C'est évident qu'il y a une tradition du jazz à Prague. Bon, déjà pendant l'époque de la répression, on va dire staliniste, je vais pas dire communiste parce que ça a jamais été du communisme. Bon, c'est vrai que le jazz et surtout le Dixieland, les choses comme ça, c'était toléré, on va dire, par les autorités. Il y avait aussi, bon, peut-être du fait qu'il n'y avait pas aussi beaucoup de... beaucoup de paroles, c'était surtout de la musique. Donc même si c'était de la musique qui venait d'Outre-Manche, qui venait d'Amérique, il y avait quand même le côté, c'était des peuples réprimés, c'était la musique des Noirs, etc. Donc je crois que peut-être le communisme pouvait s'identifier à ça. Le régime pouvait peut-être supporter le fait, les peuples opprimés, je sais pas, hein, moi j'imagine. Mais le fait est, c'est vrai qu'il y avait il y a toujours eu une scène jazz importante ici depuis les années, je crois, les années 50. Donc il y a une tradition du jazz, mais il y a aussi d'autres choses. Il y a une très bonne scène de bluegrass, par exemple. Il y a les scènes des chansonniers, etc. Bon, la République tchèque, c'est quand même, musicalement, en Europe centrale, c'est un endroit assez intéressant. Hein.
Alors vous me dites que vous étiez ici au début des années 90. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu dans quelles circonstances, puisque vous faisiez ici à ce moment-là?
Ouais, bah c'est très simple. J'étais à l'université Tobiac à Paris dans le 15e. J'avais donc 18 ans, 19 ans à l'époque. Puis je suis venu à Prague, donc c'était au tout début. Il y avait encore une aura un peu de mystère autour de Prague, parce que c'était genre 2-3 ans après la chute du mur. Il y avait des rumeurs, on disait que c'était une ville assez intéressante, mais il y avait encore beaucoup de gens qui n'osaient pas trop y aller, quoi. Hein. C'était un petit peu quand même, c'était l'Est, hein, c'était bizarre. Et puis je me suis retrouvé ici, je me suis aperçu qu'il y avait une scène assez flamboyante, quoi, on va dire. C'était, il y avait vraiment de tout, quoi. Il y avait 2 ou 3 gros squats qui ont été formés par les jeunes tchèques de façon spontanée. Il y avait des bars clandestins, il y avait des théâtres clandestins. Donc au niveau de la, on va dire, la créativité artistique spontanée, c'était absolument optimal, quoi. C'était fantastique, parce que il était possible de vivre pratiquement à partir de rien et d'avoir donc libre cours à toute forme de créativité.
Vous qui avez connu donc Prague au début des années 90, vous êtes ici aujourd'hui. J'imagine que ce n'est pas la première fois que vous revenez à Prague après ce séjour d'il y a quelques années maintenant. Alors quel regard vous avez un peu sur la vie culturelle?
Au niveau de la vie culturelle, moi j'ai un peu l'impression que c'est comme dans toutes les grandes villes, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de groupes qui tâchent de faire ce qu'ils peuvent. Maintenant, ce qui se passe, c'est Prague, c'est une ville comme toutes les villes d'Europe qui est sous une pression économique assez forte. Ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, il y a pour les jeunes musiciens qui commencent à essayer d'établir un peu une réputation, c'est difficile parce que, mais ça c'est un phénomène européen, hein, c'est un phénomène moderne, c'est que les endroits de taille moyenne, on va dire, les endroits pour les groupes qui commencent à vouloir sortir de la rue, vouloir jouer dans des plus gros bars, etc., mais qui n'ont pas encore vraiment l'appui de forces structures, c'est très difficile pour eux. Parce qu'il n'y a plus d'endroits de taille moyenne. Les endroits de taille moyenne ne peuvent plus vraiment se supporter eux-mêmes économiquement. Donc d'un côté, on a une situation où il y a beaucoup de gens qui font de la musique très intéressante. De l'autre côté, ils sont pas vraiment, il n'y a pas les structures pour leur donner leur support.
La vie de musicien n'est donc pas toujours facile. Peter Zelenka est guitariste de jazz. C'est un autodidacte dont le nom figure néanmoins parmi les plus reconnus des guitaristes de jazz actuels en République tchèque. Il enseigne également au conservatoire à Jaroslav Ježek et il raconte son parcours avec notamment une étape par la capitale française pendant quelques années.
Il y a 15 ans, quand je suis arrivé à Prague, ça bougeait d'une autre manière, à mon avis. Il y avait plus de jam sessions, on jouait un autre type de jazz qu'aujourd'hui, on jouait plutôt du jazz traditionnel, du bebop, donc on était dans cette ambiance de revivre les années 60, les années 50 aux États-Unis, mais c'était un petit peu comme un rêve qui durait pas longtemps, bien sûr, parce que c'était pas la réalité, mais quand même, ça donnait une possibilité de faire un travail sur scène, d'apprendre beaucoup sur scène, comme ça se faisait justement dans les années 50. Donc, au lieu de faire une école, j'ai travaillé à la maison, j'ai fait des transcriptions, des solos, et puis j'ai joué sur la scène avec de bons musiciens, et c'est comme ça que j'ai appris le langage de jazz.
Alors aujourd'hui, quel type de jazz vous jouez? Quel type de musique? Parce que le jazz, c'est forcément très large.
Bien sûr, au cours des années, j'ai essayé de trouver ma propre voix. J'ai commencé à composer. Je ne me contentais plus à jouer des standards. Donc j'ai commencé à composer déjà sur mon premier album. En 2000, il y a 2 compositions à moi. Mais après, j'ai commencé à composer plus et maintenant, je ne joue plus que mes propres compositions. J'ai pris des inspirations au cours des années d'autres traditions musicales. Justement, quand j'ai vécu à Paris, j'ai, j'ai pu me confronter à la musique indienne, à des concerts au théâtre de la ville, par exemple, à des petits concerts de musique arabe. J'ai pu emprunter beaucoup de CD à des bibliothèques, à des médiathèques en France, qui ne sont pas disponibles ici, par exemple. Aussi, j'ai des amis qui ont étudié à l'étranger, comme Wojciech Prochaska, qui étudie maintenant en Norvège. Donc, tous ces musiciens tchèques qui font des études à l'étranger, ils apportent beaucoup d'autres traditions musicales en Tchéquie. Et donc, la scène de jazz tchèque évolue comme ça assez rapidement. Ces dernières deux années, je vois vraiment un saut incroyable. On commence à avoir notre propre jazz à nous, je peux dire.
Donc vous êtes parti à Paris il y a quelques années, vous avez vécu quelques années, vous étiez à la recherche de nouvelles inspirations. Vous me dites que vous en avez trouvé un petit peu. Paris est une ville qui a une réputation d'être une grande ville de jazz, même peut-être la capitale du jazz pendant l'entre-deux-guerres. Est-ce que vous avez trouvé cette réputation vérifiée? Est-ce que vous avez vérifié cette réputation? Est-ce que vous avez trouvé que c'était justifié? Est-ce que vous avez trouvé assez de choses intéressantes pour vous?
Oui, bien sûr. Il y a eu des choses intéressantes. Il y a eu aussi des déceptions. Maintenant, je regrette un peu que je n'ai pas assez exploré la scène de musique improvisée à Paris, qui est assez grande. Mais à l'époque, ça ne m'intéressait pas tellement, malheureusement. Donc, quand je suis arrivé à Paris, j'étais toujours un peu dans le courant bebop. Je suis allé aux jam sessions, je ne connaissais personne. Les musiciens que j'ai connus, ça ne m'impressionnait pas tellement. Il y en avait quelques-uns de très très bons, mais j'avais du mal à trouver quelque chose qui m'intéresse vraiment.
Prague aujourd'hui, comment vous voyez la ville? On peut lire souvent dans les guides touristiques en français sur la capitale tchèque que c'est une des capitales du jazz européen, que la scène jazz est très vivante. Est-ce que vous trouvez aussi que c'est justifié?
Justement, en partie, je trouve que c'est vrai, parce que surtout ces deux, trois dernières années, ou même plus, mais là ça commence vraiment à être plus marquant, ces deux dernières années, ça a quelque chose de particulier, typique pour notre scène. Donc c'est la capitale de jazz tchèque, ça c'est sûr. La capitale de jazz européenne, je sais pas trop dire. C'est pas si grand comme Paris, par exemple. C'est pas comparable. Paris est plus grand, il y a plus de musiciens, plus de traditions. Mais oui, il y a une petite scène très importante et ça vaut l'explorer.
Une des preuves du dynamisme de la capitale tchèque dans ce domaine reste le nombre de clubs de jazz assez élevé par rapport à la taille de la ville, comme le fait remarquer le patron du Jazz Doc, Vladimir Lederer.
Je pense que la scène jazz tchèque est très riche, pleine de gens de valeur. Je ne peux pas dire pourquoi c'est comme ça, parce qu'il n'y a pas tant d'auditeurs de jazz que cela, même si notre expérience au Jazz Doc montre que les Tchèques viennent écouter la musique. Avant, il semblait que s'il n'y avait pas de touristes, personne ne venait dans ces clubs de jazz. Notre scène de jazz est très riche, avec des musiciens des générations précédentes qui jouent depuis 40 ans, mais qui jouent toujours bien, et la jeune génération qui étudie dans différents conservatoires et à l'étranger, et qui fonde de nombreux groupes. Je pense qu'il y a peut-être 200 musiciens qui ont un niveau professionnel, et c'est beaucoup. Et même si cela peut surprendre, Prague appartient en métropole du jazz, notamment quand on voit le nombre de clubs qui sont au nombre de 10 environ, même en comparant avec des villes comme Amsterdam ou même Londres. Ces clubs ne sont pas tous bons, mais tout de même, cette musique est jouée régulièrement, ce qui me paraît quelque chose d'énorme pour notre époque.
Effectivement, le Jazz Doc a réussi ce bel exploit d'attirer un public local qu'il fidélise avec des groupes de la scène nationale, mais aussi avec des grands noms du jazz international. Pour autant, Vladimir Lederer ne craint pas de voir d'autres clubs suivre son modèle.
Non, ja bych byl naopak rád, protože
J'en serais au contraire très heureux. Je soutiens tout ce qui profite au jazz. Ainsi, un nouveau club s'est ouvert il y a quelques mois. Il s'appelle Jazz République et se trouve dans un endroit intéressant dans le métro de Prague. C'est un espace magnifique et aménagé de façon moderne. Et je pense que c'est bien parce que si quelqu'un écoute de la bonne musique quelque part, il aura ensuite envie de venir l'écouter chez nous ou le contraire. Et c'est mieux que d'avoir un monopole, donc je n'ai rien contre ça.
Všichni tam přijdou, no. Takže nic bych proti tomu neměl.
L'offre pour les amateurs de jazz à Prague est donc plutôt riche. Pour preuve, sachez ainsi que dans les semaines qui viennent, on pourra entendre à Prague, par exemple, le guitariste-bassiste Charlie Hunter au Jazz Doc, mais aussi le saxophoniste Maceo Parker au Luzerna Music Bar dans le cadre du festival de jazz Agartha, ou encore le grand Chick Corea au Palais des Congrès.
Voilà, et c'est déjà la fin pour aujourd'hui du bloc Actualité de la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention, merci aussi de votre fidélité.